Nous nous retrouvons chaque sabbat pour le service du culte, pour l'école du sabbat. Et vous savez très bien comme moi qu'avec les années, nous tombons dans la routine, dans les habitudes, au point que finalement il nous arrive d'oublier pourquoi nous faisons ceci et pourquoi nous faisons cela. C'est la raison pour laquelle ce matin, j'aimerais prendre l'un après l'autre les éléments qui constituent notre culte, pour en rappeler le sens, la signification et aussi l'importance pour chacun d'entre nous. Nous venons dans ce lieu parce que c'est une maison de prière pour tous les peuples. C'est le lieu de la rencontre et nous voudrions véritablement pouvoir rencontrer Dieu. Le culte que nous rendons en tant que croyants adventistes s'inspire du culte que les Hébreux rendaient à Dieu et du culte que les chrétiens rendent à Dieu. Nous avons gardé dans nos services du sabbat matin des éléments de la tradition de la synagogue et des éléments de la tradition chrétienne. Pour dire les choses d'une façon très simple, nous avons retenu dans l'école du sabbat quelque chose de la synagogue. Notre école du sabbat, c'est le moment où on va partager l'étude de la parole de Dieu, on va lire la parole de Dieu, on va en faire les commentaires. Ce sont des éléments que nous avons gardés de la dynamique de la synagogue. Dans le culte à proprement parler, nous avons repris la tradition chrétienne et en particulier la tradition de la réforme, où la proclamation de la parole de Dieu prend une place importante, une place qui par le passé avait été mise sur le côté pour donner place à des rites et à certaines traditions. Ainsi, notre culte reprend des bases de l'enseignement biblique et c'est la raison pour laquelle notre culte d'une façon générale, prend trois orientations. Dans un premier temps, c'est l'adoration. Nous allons voir plusieurs éléments constitutifs de cette partie qu'est l'adoration. La deuxième partie, c'est la proclamation. Et finalement, la consécration et l'engagement. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, il est dit ceci dans les premiers versets. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu nous invite à lui rendre un culte raisonnable. Et le mot qui est employé ici, c'est le mot logique dans le texte du Nouveau Testament. Nous sommes invités à nous présenter à Dieu dans une logique, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est significatif. Il y a plusieurs manières de construire la liturgie du culte. Celle que nous allons suivre ce matin n'est jamais qu'un exemple parmi plusieurs manières de faire. Mais j'aimerais simplement revoir avec vous aujourd'hui la logique qu'il y a dans le culte que nous présentons à Dieu. Vous avez remarqué, l'apôtre Paul nous invite aussi au renouvellement de l'intelligence. C'est un culte intelligent. Ce n'est pas simplement des émotions. Dieu parle à notre cœur, sans aucun doute, mais Dieu parle aussi à notre esprit parce qu'il veut nous rencontrer. Et notre culte est aussi une démarche intelligente. Permettez que je vous lise juste quelques textes tirés du deuxième volume des témoignages écrits par Ellen White. Ces textes sont assez frappants. Si certains doivent attendre quelques minutes avant que la réunion commence, qu'ils observent un véritable esprit de dévotion par la méditation silencieuse, élevant leur cœur vers Dieu par la prière, ils devraient se souvenir que des messagers célestes sont présents. Nous perdons beaucoup de la douce communion avec Dieu par notre agitation, notre négligence de la méditation et de la prière. Un peu plus loin, sur la même page de 131, lorsque les fidèles entrent dans le lieu de culte, s'ils sont animés d'une véritable révérence pour le Seigneur et s'ils se souviennent qu'ils sont en sa présence, il y aura dans le silence une éloquence suave. Les chuchotements, les rires, les bavardages, qui pourraient être inoffensifs dans un quelconque endroit d'affaires, ne devraient pas être tolérés dans la maison où Dieu est adoré. Il faut que l'esprit soit préparé à entendre la parole divine, afin qu'elle puisse être comprise et qu'elle impressionne le cœur à salut. Ou encore cette dernière phrase. Parents, élevez le niveau du christianisme dans l'esprit de vos enfants. Aidez-les à faire entrer Jésus au plus profond d'eux-mêmes. Enseignez-leur le plus grand respect pour la maison de Dieu et faites-leur comprendre que lorsqu'ils y entrent, ce doit être avec des cœurs émus et envahis par la pensée « Dieu est ici ». Voilà l'état d'esprit dans lequel nous rentrons dans cette maison de prière. Dieu est ici. Et rien que cela change déjà toute l'ambiance et tout notre état d'esprit. Ce matin, nous avons commencé par l'entrée des officiants. Nous sommes venus à trois sur l'estrade et il y a en fait ici trois personnes qui ont des rôles différents. Eric est le directeur du culte. C'est lui qui donne le ton pour le culte. C'est lui qui dirige le culte. Il est le directeur du culte. Il a un assistant, Diane, qui va aider dans la liturgie, annoncer différentes choses. Et ainsi, le culte va être dirigé par ces deux personnes. La troisième personne, c'est le prédicateur, qui en temps normal présente la prédication. Le prédicateur n'est pas le directeur du culte. Celui qui dirige le culte, c'est l'ancien d'église en général, qui va conduire l'église dans cet état d'esprit d'adoration, de louange et d'engagement. Les trois officiants sont rentrés tout à l'heure, et la première chose que nous avons fait, c'est nous mettre à genoux en prière. Quand les officiants montent sur l'estrade, ils ne se présentent pas devant l'église, ils se présentent devant Dieu. C'est pourquoi la première chose à faire, c'est de se mettre à genoux et de prier. Et c'est ce que nous avons fait. C'est le sens de cette prière que nous faisons en entrant dans le lieu de culte. Le culte, ce n'est pas un show. Le culte, ce n'est pas une conférence. La mentalité moderne voudrait que ce soit un lieu de divertissement. On voudrait que le culte soit une activité intéressante. Et on vient généralement au culte avec cette mentalité qui est la mentalité moderne d'aujourd'hui de consommateur. On vient pour assister au culte. Alors qu'en réalité, nous venons pour participer au culte. Ces deux mots vont traduire deux mentalités différentes. Si je viens pour assister, je viens pour consommer. Et je vais venir avec cet esprit critique de la manière dont les uns et les autres sont habillés, si le prédicateur a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui ou pas. Si je viens comme participant, je fais partie de cette famille de l'Église qui aujourd'hui se présente devant Dieu dans ce jour de sabbat pour répondre à son appel, pour répondre à la sainte convocation qui nous est adressée. Parce que dans le jour de sabbat, ce n'est pas nous qui faisons à Dieu la faveur de le rencontrer, c'est Dieu qui nous fait la faveur de nous rencontrer parce qu'il nous a appelés à le rencontrer. Dans l'Ancien Testament, Dieu adressait cette sainte convocation à son peuple le jour du sabbat. Nous sommes venus ce matin en réponse à la sainte convocation de Dieu. C'est pourquoi la mentalité de celui qui assiste ou la mentalité de celui qui participe va être très différente. Et ça va influencer notre état d'esprit, aussi notre manière d'être, notre comportement et aussi notre vêtement parce qu'on se présente devant Dieu. Si on se présentait devant un haut personnage du gouvernement, on ne viendrait pas non plus habillé de la même manière qu'on vient à notre travail, par exemple. Et là, on se présente devant le roi des rois. On ne s'habille pas pour l'ancien, pour le pasteur ou pour les frères et sœurs de l'Église. On s'habille différemment pour dire à Dieu, c'est une rencontre particulière, c'est un moment spécial, c'est un moment privilégié avec Dieu. Après que les officiants se soient relevés de leur prière, c'est le moment pour l'appel à l'adoration. Cet appel à l'adoration, c'est le directeur du culte qui le présente. C'est une invitation à la congrégation dont il a la charge de se rassembler dans cet état d'esprit d'adoration. Ça peut se faire par la lecture de textes bibliques qui sont des appels à l'adoration. Par exemple, dans le psaume 95, au verset 6, il est dit « Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » C'est un exemple tiré du psaume 95 où il y a là un appel à l'adoration. J'aimerais maintenant demander à Eric de nous adresser cet appel à l'adoration. Il se trouve aussi dans le psaume 95.
Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur.
Cet appel nous est adressé pour nous rassembler dans cet esprit d'adoration. Maintenant, nous allons répondre à l'appel à l'adoration. Et c'est ce que nous appelons la doxologie. Qu'est-ce que c'est que la doxologie ? Doxologie veut simplement dire donner gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu. La doxologie, c'est un chant dans lequel nous répondons à l'appel à l'adoration. La question est de savoir qui donc allons-nous adorer maintenant ? Nous adorons notre Dieu créateur. Nous adorons le Dieu rédempteur, le sauveur. Nous adorons celui qui nous a créés et qui est notre Dieu, bien que nous soyons pécheurs encore. Nous adorons le Dieu qui, par son amour, a fait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions être sauvés. Nous adorons le Dieu de la Bible, nous adorons le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous adorons celui que Jésus appelait « mon Père ». Nous adorons celui qui, dans l'Ancien Testament, s'est présenté comme « je suis ». Et dans nos Bibles, cette expression, ce nom de Dieu, est traduit par « l'Éternel », qui est sans doute la meilleure traduction que l'on puisse donner au nom de Dieu. Éternel, c'est ce qu'il est. C'est lui que nous adorons. Nous adorons le Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est ce que notre cantique de doxologie indique. Nous adorons le Dieu créateur et nous adorons le Dieu sauveur. Il n'y a pas de meilleur moment pour le culte que le jour du sabbat. Parce que le sabbat est précisément le mémorial de la création. Dans les 10 commandements, dans Exode chapitre 20, le 4e commandement est présenté parce que Dieu a créé le monde en 7 jours. L'invitation à observer le 7e jour de la semaine comme le jour de sabbat, de repos, est justifiée par le fait que Dieu a créé l'univers. Mais lorsque vous lisez les 10 commandements dans le livre du Deutéronome, le 4e commandement est justifié par le fait que Dieu a délivré son peuple de l'esclavage du péché. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu sauveur. Le sabbat est le jour même sur lequel reposent ces deux notions. Le sabbat est donc le moment privilégié pour nous présenter dans le culte et adorer celui qui est le Créateur et le Sauveur. Il y a dans les Écritures plusieurs chants doxologiques, plusieurs chants qui rendent gloire à Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, au chapitre 4 et au verset 8, il est dit, et ce sont les quatre êtres vivants qui sont devant Dieu, qui s'exclament en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Un peu plus loin, dans le même chapitre 4 d'Apocalypse, il est dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est là un chant doxologique des 24 vieillards qui sont autour du trône. Ailleurs dans l'Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 13, il est dit « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et là, ce sont tous les êtres vivants qui adorent le Seigneur. Il y a ainsi dans les Écritures plusieurs chants doxologiques qui sont cette expression d'adoration à Dieu pour ce qu'il est, notre Créateur et notre Sauveur. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à chanter une strophe d'un cantique qui est un cantique doxologique, le cantique 46. Et je vous propose de chanter la 5e strophe seulement. Cantique numéro 46, la 5e strophe seulement, et permettez que je vous lise le texte de cette strophe. Gloire au Dieu trois fois saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais, gloire à toi, Jésus-Christ. L'Église a été invitée à l'adoration. Nous venons de répondre à cet appel en donnant gloire à Dieu dans ce cantique que nous appelons la doxologie. Maintenant, le directeur du culte va adresser à Dieu cette prière d'invocation. Nous ne sommes pas en fait en train de demander à Dieu de venir parce qu'il nous a précédés dans ce lieu. Vous vous souvenez, il nous a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Cette prière d'invocation, c'est une prière que l'ancien d'Église, le directeur du culte, va adresser au nom de toute l'Église, par laquelle nous nous mettons à la disposition de Dieu. C'est lui qui va parler par sa parole. C'est lui qui va nous influencer par son esprit, nous conduire. Et dans cette prière d'invocation, nous nous mettons à la disposition de Dieu. Nous nous présentons à lui en lui disant « Seigneur, sois au milieu de nous et sois en nous, et accomplis ton œuvre en nous aujourd'hui. » On s'ouvre à l'influence de sa présence. Et c'est dans une courte prière que le pasteur ou l'ancien présente cet élément-là à Dieu. Nous avons reconnu Dieu, qui il est. Maintenant, l'Église se met à sa disposition. Il y a plusieurs prières d'invocation. On pourrait en regarder simplement une dans le psaume 19. Psaume 19, au verset 15, il est dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon Rédempteur. » C'est une courte prière d'invocation qui est ici présentée dans le psaume 19. Alors maintenant, je vous invite simplement à vous lever. Nous allons prier ensemble dans cet état d'esprit-là. Notre Dieu, notre Père, tu nous as précédés dans ce lieu. Aujourd'hui, accorde-nous la grâce d'être ouverts à ton influence. Que notre cœur soit un champ de bonne terre où cette semence de ta parole pourra grandir à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Après cette prière d'invocation, nous continuons généralement par ce que nous appelons le premier cantique. Il s'agit en réalité d'un cantique d'adoration. Ce cantique n'est pas choisi au hasard. Il est choisi pour le contenu dans lequel nous exprimons à Dieu notre louange, notre adoration pour ce qu'il est. Il y a plusieurs cantiques de ce genre dans les Écritures. Regardez par exemple dans le psaume 96. Le psaume 96 commence par ces paroles. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Voilà un exemple de cantique d'adoration. C'est un cantique dans lequel nous exprimons notre joie, notre reconnaissance envers Dieu, pour ce qu'il est pour chacun d'entre nous. Nous le reconnaissons comme le Dieu Tout-Puissant, nous le reconnaissons comme notre Sauveur, nous le reconnaissons comme celui à qui nous nous ouvrons pour recevoir le pardon, pour recevoir sa grâce et la force de continuer notre marche. Nos recueils de cantiques en français sont souvent pauvres en chants d'adoration. Le milieu anglophone sont beaucoup plus riches de ces cantiques d'adoration. La Réforme et le grand réveil ont amené beaucoup de gens à composer des cantiques d'adoration. Des noms comme Isaac Watts et Charles Wesley sont bien connus comme étant des compositeurs de cantiques qui ont traversé le temps à cause de la valeur musicale et des paroles que leurs cantiques contenaient. Mais nous en avons aussi dans notre recueil, et c'est dans cet esprit-là que je vous invite à chanter ce cantique d'adoration. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir notre recueil Hymne et Louange et de chanter le cantique numéro 29, qui exprime justement ce sentiment d'adoration et de louange envers Dieu, et que ces paroles soient l'expression de notre cœur. Après le cantique d'adoration, nous avons la prière pastorale, parce qu'elle est faite par le pasteur ou par l'ancien. C'est un moment particulier, c'est un moment solennel qui fait partie de l'adoration. Parce que adorer, dans le sens premier du terme, c'est prier. Parler à Dieu, sous-entendu. C'est le sens d'adorer. L'adoration s'exprime d'abord par la prière. Et c'est ce que l'Église fait dans ce que nous appelons la prière pastorale. C'est toute l'Église qui est en prière par l'intermédiaire des paroles prononcées par le pasteur ou par l'ancien. C'est le moment où l'Église parle à Dieu. C'est sans aucun doute le plus ancien élément du culte, la prière. Dans sa relation avec la divinité, l'homme est en prière. Même dans les cultures païennes, l'homme prie. Cet élément de la prière est central dans le culte, et c'est pourquoi la prière pastorale n'est pas une prière comme les autres. Elle contient, d'une façon générale, cinq éléments. Le premier élément, c'est louange et adoration. C'est ce qui est dû à Dieu, de nous présenter et de reconnaître qui il est et de reconnaître qui nous sommes par rapport à lui. Le deuxième élément, c'est l'action de grâce, la reconnaissance. Remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et ça peut s'étendre à différents domaines de la vie de l'Église. Ça peut concerner des frères et sœurs qui ont été guéris, des difficultés qui ont été dépassées. Ça peut concerner aussi le travail de l'évangélisation qui porte du succès. Ça peut aussi concerner certaines prières que nous avons adressées à Dieu et qui ont trouvé un exaucement et que l'Église a pu constater. Souvent, nos prières sont des demandes, et nous sommes souvent chiches de remerciements envers Dieu. Le troisième élément, c'est un élément de confession. En tant qu'Église, nous venons à Dieu et nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons nos erreurs. Et nous nous présentons à Dieu, lui demandant de pardonner les fautes de son Église. Notre lenteur à avancer. Notre lenteur, notre faiblesse, notre égarement, c'est la confession. Le quatrième élément, c'est les supplications. Et c'est là que nous pouvons demander à Dieu de prendre soin d'une façon particulière de son Église, pour des besoins spécifiques ou pour les besoins de l'Église en général, pour le soutien de Dieu dans le ministère de l'Église. Demander à Dieu sa protection pour la tâche à accomplir, sa protection aussi pour les plus âgés, pour les enfants. Le cinquième point, c'est l'intercession. L'Église intercède, l'Église supplie Dieu pour d'autres, pour les autorités de la ville, pour le travail d'évangélisation, pour ceux qui ont un besoin spécifique et particulier, qui l'ont fait connaître. On va intercéder. Dans l'Épître de Jacques, il nous est dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais quelle va être l'efficacité de la prière des justes rassemblés tous ensemble? Si la prière d'un juste est d'une grande efficacité, je crois que la prière de l'Église des justes est d'une plus grande efficace encore. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités à nous associer à cette prière pastorale, cette prière de l'Église. Je crois qu'il est dans le plan de Dieu de répondre à la prière de son Église pour ce qu'elle demande, et que Dieu ne nous adresserait peut-être pas si nous ne l'avions pas demandé. Demandez et vous recevrez. Pour la prière pastorale, nous sommes invités à nous mettre à genoux. C'est une position d'adoration, de respect. Vous vous souvenez, Daniel priait 3 fois par jour. Et le texte nous dit qu'il se mettait à genoux, mais il était tout seul dans sa chambre. Et pourtant, son esprit était tellement tourné vers l'adoration, vers Dieu, que son corps prenait naturellement cette position d'adoration, se mettre à genoux devant Dieu pour la prière. Et c'est ce que nous vous proposons de faire lorsque nous faisons la prière pastorale. Je sais qu'à genoux derrière un banc, on peut faire autre chose que de prier. Je sais qu'on peut même faire des textos pendant la prière quand on est caché derrière le banc. Je sais qu'on peut faire plein d'autres choses cachées derrière un banc quand on est à genoux. Mais je n'ose pas penser à l'affront, à l'irrévérence que cela représente par rapport à Dieu qui est présent. La prière pastorale est un moment solennel pour l'Église, parce que c'est là que l'Église prie Dieu. Et comment est-ce que nous pouvons participer à cette prière pastorale? De 2 manières. En faisant connaître certaines requêtes de prière que nous voudrions être présentées à Dieu. Il y a une autre manière aussi pour participer à la prière pastorale, c'est quand l'Église, à la fin de la prière, dit « Amen ». C'est notre manière de dire « Cette prière, c'est aussi la mienne ». C'est ainsi que nous nous joignons à la prière. Nous pouvons aussi dire « Amen » pendant la prière. Si dans la prière, il y a quelque chose qui correspond véritablement à ce que nous sentons comme étant l'expression de notre cœur, nous pouvons dire « Amen ». On n'a pas à dire « Amen » pour interrompre la prière ou pour attirer l'attention sur nous. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de dire qu'il y a là dans cette prière quelque chose qui correspond à ce que nous avons sur le cœur. C'est de cette façon-là que l'Église participe à la prière. C'est l'Église qui prie. Nous avons l'habitude, à la fin de la prière, de chanter une strophe d'un cantique. « Entends-nous, Seigneur. » C'est une manière de prolonger ce temps de prière, ce temps de révérence devant Dieu. C'est une manière de se retirer de cette présence immédiate de Dieu dans la prière avec révérence. Pour ne pas dire « Seigneur, j'ai fini ma prière, au revoir. » Et je vous invite à chanter cette strophe de cantique dans cet état d'esprit lorsque nous aurons terminé notre prière. Je vous invite maintenant, dans la mesure du possible, à vous mettre à genoux pour la prière avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux aujourd'hui de nous présenter devant toi en tant qu'Église, ta famille dans cette ville, parce que tu nous as appelés et nous voulons te louer, te remercier. Seigneur, nous sentons notre petitesse devant toi. Nous sentons notre besoin de ta présence. Et nous te louons aujourd'hui de ce que tu réponds à tes promesses et tu es au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te remercier aujourd'hui pour les bontés que tu répands sur chacune de nos familles. Nous voulons te remercier pour ta garde, ta protection pendant cette semaine. Nous voulons te remercier aussi de la grâce que tu nous fais de pouvoir lire ta parole et d'apprendre à connaître le Seigneur Jésus. Nous voulons te louer, Seigneur, et te remercier de ce que tu nous donnes la grâce de pouvoir partager aussi cette bienheureuse espérance qui est la nôtre. Ce matin, Seigneur, nous voulons intercéder pour ceux d'entre nous qui sont frappés par les difficultés. Nous voulons te prier de donner force et courage à tous ceux qui peinent dans la vie. Nous voulons te prier pour Darren d'une façon particulière et nous te demandons, Seigneur, de toucher son cœur, de te manifester à lui, de lui donner le courage de prendre les décisions qui sont droites. Nous te demandons d'être avec lui et avec toute sa famille. Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes de l'Église, Nous te demandons de les soutenir, de leur donner la force de résister à l'influence du monde dans lequel ils sont toute la semaine. Donne-leur la force et le courage de regarder à Jésus comme leur exemple. Te prions, Seigneur, pour les enfants qui sont parmi nous. Accorde-leur ta garde, ta protection. Soutiens ceux qui sont plus âgés. Renouvelle, Seigneur, les forces de nos parents et que leur témoignage soit encore parmi nous. Te demandons, Seigneur, de les soutenir et de les garder du mal. Nous voulons te prier, bon Père, d'être avec ceux qui dirigent ce pays, cette province. Donne-leur, dirigés par ton esprit, de conserver cette liberté dont nous avons besoin pour prêcher ton évangile. Et permets, Seigneur, que le travail d'évangélisation de cette Église puisse porter du fruit dans l'éternité. Seigneur, accorde la grâce à ceux qui te cherchent d'un cœur sincère de pouvoir te trouver et se réjouir du salut en Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes venus pour fraterniser, mais aussi pour nous présenter devant toi. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que ta parole nous fasse du bien. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 16, au verset 16, il est écrit ceci. « On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Il en est de même aujourd'hui. Lorsque nous venons au culte, nous ne venons plus avec des sacrifices, mais nous sommes invités à ne pas venir les mains vides. Nous sommes invités à apporter nos dîmes et nos offrandes. Cela même fait partie du culte d'adoration. Nous venons au Seigneur et nous lui apportons nos dîmes et nos offrandes. La dîme, c'est l'expression de cette foi que nous avons en Dieu. Il nous a demandé de lui rendre les 10% de notre revenu, quel que soit notre revenu, parce qu'il nous a promis de prendre soin de nous pour les 90% qui restent dans notre poche. Et c'est dans la mesure où nous cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice qu'il pourra nous donner tout le reste par-dessus. Apporter notre dîme au moment du culte, c'est cet acte d'adoration, de foi, de reconnaissance envers Dieu en tant que le pourvoyeur dans nos vies. L'Éternel pourvoira. Et puis nous apportons nos offrandes. Les offrandes, nous en choisissons le montant. Et c'est pour nous l'expression de ce que nous avons à dire à Dieu. Nous parlons à Dieu par nos offrandes. Évidemment, si nous arrivons le sabbat matin et que nous regardons vite dans nos poches s'il y a quelques pièces qui traînent là pour les donner, ce n'est pas une offrande. Dieu n'a pas besoin d'une aumône. Le monde est à lui. D'ailleurs, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29 et au verset 14, il est dit « Car qui suis-je ? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » C'est exactement ainsi. Ce que nous apportons à Dieu, en fait, c'est ce qu'il nous a confié. Dans nos offrandes, nous sommes en train de lui dire que nous acceptons d'être des gestionnaires de ce qu'il nous a prêté et qui lui appartient. Notre offrande n'est pas une aumône. Ce n'est pas la monnaie que nous avons dans notre poche et qui s'y trouve par hasard ce jour-là. Notre offrande, c'est ce que nous avons choisi de lui donner et qui n'est pas le plus petit montant possible pour que ça soit acceptable. C'est en réalité le maximum que nous voulons faire et que nous pouvons faire pour lui dire de tout notre cœur à quel point nous sommes prêts à nous engager aussi matériellement dans l'œuvre de Dieu. Notre offrande, elle se prépare. Ce n'est pas le sabbat matin qu'on doit choisir combien on donne dans notre offrande. Nous avons prévu notre offrande. C'est comme un cadeau. Si on va vite acheter au magasin un cadeau au dernier moment parce qu'on a oublié, ça n'a pas le même message que si on le prépare nous-mêmes avec nos mains et qu'on l'offre. Il y a aussi une prière qui est offerte soit avant, soit après le moment où on apporte nos dîmes et nos offrandes. Quand on l'a fait avant, c'est pour demander à Dieu de nous inspirer pour être dans le bon état d'esprit pour les offrandes. Quand nous la faisons après, nous demandons au Seigneur de bénir l'utilisation de ces offrandes, de permettre que chaque dollar donné soit utilisé à sa gloire. C'est une manière pour nous d'apporter, par cette prière, nos offrandes et de les présenter à Dieu. Ce matin, je vais demander à Eric de nous introduire dans les dîmes et les offrandes.
Les offrandes d'aujourd'hui, c'est le budget mondial avec une emphase sur le soulagement des sinistres de des familles pour ADRA Canada. Matthieu 24, le verset 4 à 8, nous dit « Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Une chose qui a été bien évidente au cours des dernières années, c'est l'augmentation des graves sinistres. Les tremblements de terre, les tsunamis, les inondations, les incendies, les tornades, les révoltes et le reste. Ce sont là les signes des temps de la fin, mais ce sont aussi des occasions pour l'Église de montrer de la compassion aux victimes de ces catastrophes. Partager avec les nécessiteux est un trait caractéristique du chrétien. Dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19, Paul nous dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. » et de ne pas mettre leurs espérances dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Notre offrande aujourd'hui pour le budget mondial est l'un des ministères qui vont recevoir des fonds et l'œuvre de soulagement d'ADRA Canada. De ce privilège que tu nous donnes de pouvoir participer au développement de ton œuvre. Nous savons que tu n'as absolument pas besoin de nous, mais que tu nous demandes de participer pour que nous puissions prendre conscience de l'importance qu'il y a à partager et à travailler avec toi. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous donnes jour après jour. Et nous te demandons d'accepter ces dîmes et ces offrandes, de les faire fructifier et surtout qu'elles puissent permettre à ton œuvre de se répandre le plus rapidement possible à travers cette province, à travers ce pays, à travers le monde, pour que finalement nous puissions rentrer à la maison et être avec toi. Te demandons toutes ces grâces, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.
La lecture biblique est un moment important dans le culte. C'est le moment où nous lisons la parole de Dieu. C'est donc un moment très important et il y a dans les Écritures plusieurs histoires qui nous sont rapportées où la lecture de la parole de Dieu était puissante au sein de son peuple. Je pense à Néhémie au chapitre 8 où la lecture a été faite devant le peuple et un réveil s'en est suivi. Je pense à la lecture qui est faite dans les synagogues et dans les lieux de culte. Dans Actes chapitre 13 par exemple, il nous est dit au verset 15 « Après la lecture de la loi et des prophètes » et Paul a prêché. En effet, dans le culte ancien, à la synagogue, il y avait plusieurs lectures. on lisait la loi et les prophètes. Un texte issu du Pentateuque et un texte issu des livres écrits par les prophètes. Dans l'Église chrétienne, on avait souvent deux lectures, une de l'Ancien et une du Nouveau Testament. Nous avons aujourd'hui une lecture. On pourrait en avoir plusieurs. Mais cette lecture doit être significative. Elle est choisie en fonction de la prédication qui va suivre. Elle est choisie par le prédicateur, suivant le thème qu'il va développer dans sa prédication. Il ne s'agit donc pas de un ou deux versets qui sont lus en vitesse pour satisfaire une habitude ou un rite. Il s'agit d'une portion significative de la parole de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons participer à cette lecture? Elle est lue depuis devant, par quelqu'un qui est sur l'estrade, par l'assistant ou par le directeur du culte. Aujourd'hui, cette lecture sera faite par un jeune de l'Église. Mais si nous venons à l'Église sans nos Bibles, sans notre cueil de cantique, nous disons déjà à l'avance que nous venons pour assister, pas pour participer. Quand l'Église lit la parole de Dieu, nous sommes invités à prendre nos Bibles et à suivre ensemble la lecture de la parole de Dieu. Si pour nous la Bible est la parole de Dieu, qu'il en soit ainsi, considérons-la donc comme parole de Dieu. Et je crois que quand Dieu parle, le mieux que nous ayons à faire, c'est d'écouter. Alors je vous invite à venir chaque sabbat avec vos Bibles, vos cantiques, votre questionnaire de l'école du sabbat, tout ce qu'il faut pour être participant du culte et pas assistant au culte. La lecture de la parole de Dieu est quelque chose de solennel. Vous savez, les Juifs ne vont même pas prononcer le nom de Dieu, par crainte de le prononcer en vain à un moment ou à un autre. Alors, chaque fois que le nom de Dieu arrive, ils ne vont pas dire le nom de Dieu, ils vont dire Adonai, le Seigneur. C'est dire à quel point il nous donne l'exemple de la révérence pour la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et nous aimerions tellement souvent entendre Dieu nous parler quand il nous parle. Est-ce que nous n'aurions pas meilleur temps d'écouter et de considérer avec respect la lecture de sa parole ? Lorsque Dieu parlait à ses prophètes et que ses prophètes transmettaient le message biblique, il le faisait avec l'autorité de Dieu. Et aujourd'hui, nous nous appuyons sur sa parole comme étant l'autorité suprême pour connaître la volonté de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles et Florence va nous faire la lecture biblique pour ce matin.
Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Parce qu'il nous a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour déclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles la récupération de la vue, pour envoyer la libre des opprimés, pour publier les années de grâce du Seigneur. »
Nous introduisons généralement la prédication par le cantique de méditation. C'est aussi un cantique qui est choisi d'une façon particulière. C'est un cantique qui nous prépare à écouter la prédication. C'est un cantique dans lequel on exprime encore notre ouverture à la parole de Dieu que l'on vient de lire juste avant. Maintenant, cette parole de Dieu va être expliquée depuis la chair. C'est un cantique doux, c'est un cantique méditatif, c'est un cantique qui nous incite à ouvrir les oreilles de notre cœur, si on peut s'exprimer ainsi, pour entendre la parole de Dieu. Il y a plusieurs cantiques méditatifs qui s'y prêtent dans notre recueil. Et je demanderai maintenant à Diane de bien vouloir nous introduire dans le cantique de méditation.
Alors, le cantique est numéro 180.
La prédication n'est pas un show, la prédication n'est pas une conférence. C'est la prédication de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit rester au centre, au cœur de la prédication. Et au cœur de la prédication et de la parole de Dieu, il y a la personne de Jésus. Lorsque les prophètes d'autrefois parlaient, ils parlaient de la part de Dieu. Et vous vous en souvenez, lorsque le prophète apportait au peuple ce que Dieu lui avait donné, il disait « Ainsi parle l'Éternel ». Dans Jérémie au chapitre 2, au verset 1, il est écrit ceci. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. » Le message que le prophète a à transmettre est un message qui vient de la part de Dieu. La prédication est aussi un message qui nous vient de la part de Dieu. Le prédicateur l'a préparé, il a prié pour ce message, demandant au Seigneur de l'inspirer pour transmettre à l'Église ce que le Seigneur voudrait qu'elle reçoive. Jésus faisait cela aussi. Il envoyait ses disciples pour prêcher. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, il est dit au verset 38, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti, dit Jésus. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Jésus allait de ville en ville, et il prêchait, et il dit, « C'est pour cela que je suis sorti, c'est pour cela que je suis venu. » Jésus envoyait ses disciples pour accomplir aussi cette même mission de prêcher. Les dernières paroles de Jésus à ses disciples sont probablement celles-ci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La prédication de la parole de Dieu joue un rôle important dans le culte. D'ailleurs, dans l'architecture des anciennes églises, le rôle de la parole est trahi par la place où se trouve la chair. Dans certaines églises, c'est la table de la Sainte Cène qui est devant, parce que c'est ce rite-là qui a pris la place première. Dans certaines églises, vous allez voir la chair dans un petit coin, parce qu'elle a vraiment été remisée à l'écart. Dans d'autres églises, la chair est au centre, parce que c'est la proclamation de la parole de Dieu qui est considérée comme étant le moment principal, essentiel de ce moment de culte. La parole de Dieu est importante. Nous considérons la parole de Dieu comme cette lumière qui nous guide. Nous recevons lors du culte la prédication de la parole de Dieu. Mais cette parole, malheureusement, est pour certains le seul repas spirituel de toute la semaine. Si vous ne preniez qu'un énorme gros repas une fois par semaine, je ne suis pas sûr qu'on pourrait considérer ça comme un régime santé. Nous sommes invités à nous nourrir chaque jour. Nous mangeons trois fois par jour. Et nous ne prendrions qu'un seul repas spirituel dans toute la semaine? Vous imaginez à ce moment-là quelle attente on peut mettre sur la prédication le sabbat matin? Si l'on pense que c'est cela qui doit nous nourrir toute la semaine, on voudrait quelque chose de spectaculaire, d'exceptionnel, de fantastique. La parole de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Souvenez-vous, lorsque Élie est caché dans la caverne, Dieu était dans le murmure doux et léger. Nous sommes invités à nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu, à avoir ce moment personnel avec la parole de Dieu dans la prière. Et lorsque nous nous retrouvons le sabbat, la prédication aura son sens parce que nous allons retrouver dans la prédication tout ce que nous apprenons, tout ce que nous étudions dans notre contact personnel avec Dieu, jour après jour. Permettez que je vous lise encore ce texte issu du deuxième volume des témoignages écrit par Ellen White. À la page 232, elle écrit ceci. Un texte qui m'a impressionné quand je l'ai lu. Pendant la prédication, vous devriez vous souvenir, mes frères et sœurs, que vous entendez la voix de Dieu par l'intermédiaire de son serviteur. Écoutez attentivement. Ne dormez pas un instant de craindre de perdre les paroles dont vous avez le plus besoin, les paroles mêmes qui, si vous y prêtiez attention, empêcherait que vos pieds ne s'égarent dans les sentiers du mal. Satan et ses anges travaillent à créer un état de paralysie, afin que les conseils, les avertissements, les reproches ne soient pas entendus ou n'aient pas d'effet sur les cœurs et ne transforment pas les vies. Parfois, un petit enfant détourne l'attention des auditeurs, si bien que la précieuse semence ne tombe pas dans un terrain bien préparé pour produire du fruit. Parfois, des jeunes gens et des jeunes filles ont si peu de respect pour la maison de Dieu et pour le culte qu'ils entretiennent une conversation ininterrompue pendant le sermon. S'ils pouvaient voir les anges de Dieu les regarder et prendre note de leurs actions, ils seraient remplis de honte et de dégoût d'eux-mêmes. Dieu veut des adorateurs attentifs. C'est pendant que les hommes dorment que Satan sème l'ivraie. C'est dire à quel point la parole de Dieu qui est apportée au peuple de Dieu est d'une grande importance. Nous voudrions que Dieu nous parle, et je crois que Dieu nous parle plus souvent que nous ne le pensons. Comme nous n'avons pas le temps aujourd'hui, ce matin, d'avoir une prédication régulière, nous allons continuer notre liturgie. Après la prédication, nous sommes invités à chanter un chant de consécration. Ce cantique, c'est notre réponse à la prédication. Il est choisi aussi minutieusement en rapport avec le sujet de la prédication. C'est un cantique dans lequel nous répondons par notre engagement, par notre volonté de mettre en pratique ce que nous avons entendu. Et c'est un cantique. C'est-à-dire que ce chant va rassembler toute l'Église dans une seule voix pour s'exprimer à Dieu dans cette réponse. Et je vais demander à Diane de nous introduire dans le cantique de consécration. Après le cantique de consécration, nous terminons ce moment de culte par la prière de consécration. Elle peut être offerte par le pasteur qui a prêché, par le directeur du culte. Elle est en tout cas ce moment où l'Église, dans ce dernier moment, se rassemble dans la prière pour se tourner vers Dieu. Cette prière contient trois éléments principaux. D'abord, la notion de consécration. Nous voulons vivre ce que nous avons été invités à vivre dans la prédication, dans la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui, ce dont nous avions besoin. C'est la première partie de cette prière d'engagement, où ensemble nous nous mettons à la disposition de Dieu, demandant ses forces, son esprit, pour vivre comme il voudrait que nous vivions, accomplissant la mission qu'il nous donne. La deuxième partie de cette prière, c'est l'envoi. Le responsable de l'Église renvoie son Église, l'envoie dans le monde comme Jésus nous a envoyés aussi, porteur de la parole, porteur de la grâce de Dieu. L'Église est maintenant renvoyée dans le monde. C'est ce que Jésus avait fait. Allez, faites de toutes les nations des disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous partons forts de cette promesse de la présence et de l'accompagnement de Dieu à chaque instant. La prière finale, c'est cette prière où nous sommes envoyés, où le Seigneur nous envoie dans le monde. Le troisième élément de cette prière, c'est la bénédiction. On peut utiliser les bénédictions qui sont dans les Écritures, celles de Nombre, chapitre 6, qui avait été elle-même enseignée à Moïse. Dieu l'avait dit, « Lorsque tu béniras le peuple, tu diras ceci. » Dans Nombre, chapitre 6, au verset 24, se trouve cette prière que Dieu lui-même a enseignée à Moïse. Verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, « Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, « Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » C'est le troisième élément que contient cette prière qui termine le moment du culte, la bénédiction du peuple. Nous terminons notre culte avec ce moment intense de prière, de contact avec Dieu. Après la prière, les officiants se retirent et nous quittons le lieu de culte. Après la prière, ce n'est plus le moment de faire des annonces. Nous voulons partir chargés de cette communion avec Dieu, de cet esprit de prière. C'est pourquoi dans le même livre des témoignages, volume 2, Ellen White écrit encore ceci. La bénédiction prononcée, tous les membres devraient rester tranquilles, comme s'ils craignaient de perdre la paix du Christ. Que tous sortent sans se bousculer, sans parler bruyamment, avec le sentiment qu'ils sont en la présence de Dieu. Le Seigneur nous accorde la grâce d'un contact particulier avec lui. Pourquoi ne pas en profiter? Si vous lisez le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, vous vous rendez compte qu'il y a un thème dominant dans ce livre de l'Apocalypse, c'est le thème de l'adoration. C'est un livre qui concerne la fin des temps, qui nous concerne. Et dans ce livre, nous avons le choix. Soit adorer la bête, soit adorer l'agneau. À la fin des temps, plus que jamais, nous sommes invités à adorer l'agneau. En terminant ce moment de culte, je vais demander à Eric de bien vouloir prononcer la prière finale, après quoi nous nous retirerons de ce lieu dans le silence. Levons-nous, voulez-vous ?
Seigneur notre Dieu, alors que nous venons de passer des moments à regarder la liturgie et à comprendre les raisons derrière lesquelles nous faisons ce culte, te demandant, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos esprits, que tu nous fasses comprendre l'importance qu'il y a à accepter, l'importance qu'il y a à se rendre compte que nous sommes dans ta maison, que nous sommes chez toi ici. Et que tu nous apprennes, Seigneur, à pouvoir le respecter, à pouvoir te rendre gloire, à pouvoir te remercier pour ce que tu fais pour nous. Et te demandons maintenant, alors que nous allons nous séparer, que tu nous gardes, que tu nous protèges, pendant cette fin de journée de sabbat, que tu nous gardes, tu nous protèges pendant cette semaine. Et que tu nous permettes à tous ici présents, Seigneur, de pouvoir rester accrochés à toi et à revenir et à être présents le jour de ton